Bonjour, donc c'est un honneur d'ouvrir ce colloque très intéressant. Donc, je ne sais pas si je serai à la hauteur philosophique de l'énonce du programme, mais j'essaierai de faire quand même quelque chose d'intéressant. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'utilisation de l'information structurale dans le développement de nouveaux médicaments. Alors, vous êtes pas sans savoir, j'en suis sûr qu'on vit dans l'époque génomique. Hein, depuis les années 90, on procède dans un séquençage massif du vivant. Donc, on peut maintenant, d'une façon systématique, déterminer les séquences de nos génomes. Et donc, cette démarche a complètement bouleversé les sciences biologiques, hein, à un point qui était totalement imprévisible quand on a commencé à faire ce type de travail. Alors, je me rappelle encore l'époque en 90 où je travaillais en biologie. On connaît une centaine de séquences de protéines et on n'avait pas l'impression de nager dans une mer d'ignorance. Et en fait, donc, quand on voit cette explosion d'informations, c'est étonnant. Bon, je pense qu'on est toujours. On est toujours dans une mer d'ignorance, mais l'eau est quand même devenue un peu plus claire. Alors, cette révolution génomique donc, nous donne un trésor d'informations biologiques donc, qui était, je dis, complètement imprévu. Et on vit maintenant dans l'ère, hein, comme on dit, génomique ou post-génomique, qui est relié à la découverte et l'exploitation de cette information. Hein, parce qu'une séquence, ça donne une information linéaire, et donc cette information en soi nous dit rien, donc il faut extraire et exploiter cette information. Alors, une des choses que nous racontent les génomes, c'est important pour ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Ça nous donne une liste de protéines qui est produite par l'organisme. Il y a beaucoup d'autres informations, évidemment, dans les séquences du génome, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est ça, en fait, hein, qui pousse l'industrie pharmaceutique à investir dans ce type de démarche, parce qu'on veut connaître toutes les protéines qui sont produites par un organisme. C'est une information cruciale et importante. Alors, des questions qui sont reliées à cette liste de protéines ou à ces protéines, c'est évidemment la fonction. Hein, une protéine, elle fait quoi dans un organisme? C'est une information cruciale. La structure, comment elle se replie dans l'espace? Et une autre question qui devient de plus en plus importante, quels sont ses partenaires? Hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'aucune protéine agit seule, les protéines agissent en collaborant avec d'autres protéines, en interagissant avec d'autres molécules. ADN, ARN, etc. Alors, pour vous donner une idée de la taille de nos génomes, du nombre de protéines qui sont présentes dans nos génomes, ici on a quelques organismes modèles qui ont été abondamment étudiés et qui continuent à être étudiés. Et on voit ici le nombre de gènes qui est à peu près le nombre de protéines. Là, j'ai une simplification que j'introduis, mais. Donc, on voit dans une bactérie comme colis à peu près 4000 codes pour à peu près 4000 protéines. Saccharomyces cerevisiae, qui est la levure, qui est un eucaryote déjà beaucoup plus complexe, on en a à peu près 6000. Et donc, l'organisme qui nous intéresse évidemment le plus en pharmacie, c'est l'homme. L'homme n'a que 30 000, il n'y a que 30 000 gènes dans le génome de l'homme, et ce chiffre est constamment à la baisse. Donc, on voit qu'il y a une étrange relation entre complexité de l'organisme et nombre de gènes. Enfin, ça c'est une autre question, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, bien que ça soit une question extrêmement intéressante. Alors, pour la plupart de ces gènes, curieusement, on n'a qu'une idée très vague sur la fonction. On sait très, très peu de choses sur un grand nombre de ces protéines, qu'est-ce qu'elles font, ou on ne sait pas du tout, ou c'est une annotation fonctionnelle qui est très, 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 très vague. Et pour la grande majorité, on n'a aucune information structurale. On ne sait absolument pas comment ces choses se structurent dans l'espace. Alors, pourquoi s'intéresser dans la structure des protéines? Ici, je donne un exemple très, très simple. C'est la structure d'un enzyme, s'appelle le lysosome qui est quelque chose qui est, par exemple, dans le liquide de l'œil pour vous protéger contre les infections bactériennes. Ça dégrade la paroi des bactéries. Eh bien, vous voyez ici la séquence linéaire. La séquence linéaire est quelques résidus, quelques acides aminés dont on sait qu'elles sont importantes pour la fonction. Alors, quand on voit cette information projetée ici sur la séquence, on n'y comprend rien. Pourquoi un résidu à 35 est important et pourquoi un autre à 52 est aussi important et tout ce qui est entre les deux semble beaucoup moins critique pour la fonction. On n'y comprend rien. Alors, pour comprendre, pour savoir ce que ça fait, il faut regarder la structure. Et quand on regarde la structure, effectivement, on voit que tous ces résidus qui sont éclatés dans la séquence vont se rassembler dans quelque chose qui s'appelle le site actif, qui est un sillon, et où a lieu l'action de l'enzyme. Et du coup, évidemment, on comprend ça, cette information qui est projetée ici a un sens chimique. Donc, l'information structurale va beaucoup plus loin que l'information au niveau... l'information structurale est beaucoup plus profonde que l'information linéaire de séquence. Alors, la structure 3D, on peut extraire un très grand nombre d'informations à partir de la structure. Je ne vais pas détailler tout ce qui est sur cette planche, mais ce qui nous concerne aujourd'hui, le plus important, c'est que ça nous permet d'étudier l'interaction avec des petites molécules. Donc, on peut regarder l'interaction avec une protéine ou un acide nucléique, comment elle interagit avec un inhibiteur, un substrat, un médicament, etc. Donc, ces démarches nous permettent de regarder chimiquement comment ces deux interagissent. Alors, comment on obtient ces informations? Donc là, très brièvement, il y a deux techniques, il n'y en a pas d'autres. Donc, la première, c'est l'RMN qui se fait en solution, sans rentrer évidemment dans aucun détail. L'RMN permet de regarder les interactions entre les protons dans les protéines. Donc, comme il y a évidemment beaucoup de protons dans les protéines, eh bien, cette technique nous permet de mesurer les distances, donc toutes les distances entre tous les protons dans les protéines. Et l'ensemble de ces distances, il y a des techniques mathématiques qui permettent de remonter à la structure tridimensionnelle de l'objet en question. Donc, ça, c'est la première technique. La deuxième, c'est la cristallographie au rayon X, qui est basée sur des principes physiques totalement différents. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, dans cette technique, on va cristalliser, donc faire des cristaux de la molécule en question, d'une protéine, par exemple ici l'hémoglobine. On va l'analyser on va le mettre dans une source de rayons X, bientôt soleil par exemple ici sur le plateau. On va mesurer la diffraction de ces cristaux et l'analyse de ces patterns de diffraction de nouveau nous permettent de remonter à la structure tridimensionnelle. Donc physiquement très différent. Évidemment, quand on a l'opportunité d'étudier la même structure par les deux techniques, heureusement, on arrive au même résultat. Alors, donc, pourquoi je vous parle de structure de protéines aujourd'hui? Eh bien, l'information extrêmement importante, c'est que la structure permet de concevoir des médicaments. Ça, c'est le point important numéro un. Et le deuxième point extrêmement important, c'est que les médicaments vont interagir avec des cibles. Donc, quoi qu'on fasse, si vous avez une substance active, vous l'absorbez, eh bien, cette substance active va se diriger vers une cible et avoir une action sur cette cible. Donc, ça semble être une banalité, mais donc, c'est pour ça que je dis toujours un peu en guise de provocation à mes étudiants, l'homéopathie est incompatible avec la thermodynamique. On croit l'un ou on croit l'autre. On croit l'autre, mais on ne peut pas croire aux deux. Ce que je veux dire avec ça, c'est que quand on croit dans un médicament, eh bien, il faut accepter que ce médicament va faire quelque chose, donc qu'il soit présent dans une concentration mesurable. Alors, deux exemples. Ici, le premier, c'est l'inhibiteur de l'HIV protéase. Donc, l'HIV protéase, donc l'HIV est une histoire extrêmement intéressante dans le développement de ces démarches. Donc, quand on a déterminé la séquence du génome du sida, donc on a tout de suite déterminé, on a essayé de déterminer les structures de toutes les protéines qui étaient produites par ce virus. Et une des choses qu'on a pu faire, c'est on a pu déterminer donc, la structure d'une protéase. Elle a besoin, le virus du sida a besoin de cette protéase pour se propager. C'est quelque chose d'essentiel. Et quand on a fait la structure de cette protéase, curieusement, on a vu que cette structure, cette protéine ressemblait beaucoup à quelque chose qu'on connaissait bien, qui est la pepsine. La pepsine, qui est une enzyme qui est dans l'estomac, qui nous aide dans la digestion. Et bon, ces deux protéines appartiennent à la même famille, sont les protéases à aspartate. Et à partir de ces observations, ce qu'on a dit, si on prend des inhibiteurs de la pepsine, parce que la pepsine était bien connue, est-ce que ça aura une action sur l'HIV protéase? Et effectivement, c'était des mauvais inhibiteurs, mais ça permet d'améliorer petit à petit les choses par quelque chose qui s'appelle drug design, je vais en parler, et on a pu déterminer des molécules qui sont maintenant efficaces et qui font partie, sont des molécules clés de ce qu'on appelle la trithérapie. Un autre exemple ici sont les inhibiteurs de la prostaglandine synthase. Donc, la prostaglandine synthase, c'est une molécule qui est impliquée dans la biosynthèse de la prostaglandine, impliquée dans les réactions inflammatoires. Eh bien, donc, l'aspirine que vous connaissez tous, l'aspirine va agir sur cette molécule. Donc, vous voyez ici le site actif de la prostaglandine synthase, c'est en fait l'entrée du site actif, et l'aspirine se met à l'entrée de la prostaglandine synthase pour la bloquer, ce qui explique l'action anti-inflammatoire de cette molécule. Évidemment, on a essayé de trouver des alternatives à l'aspirine parce que ça donne des brûlures d'estomac, plein d'autres problèmes au niveau du sang. Donc, et cette structure a permis effectivement de trouver des molécules, d'autres molécules que l'aspirine pour bloquer la prostaglandine synthase. Alors, je vais vous parler de deux choses encore aujourd'hui. Donc, la première, c'est, je vais vous donner un exemple d'une démarche plutôt classique dans le développement, d'un médicament. Et après, je vais vous montrer ce que l'approche génomique structurale peut apporter dans le futur pour trouver des nouvelles molécules. Alors, le premier exemple est relié au virus de la grippe, qui est devenu extrêmement populaire depuis quelques années parce qu'on a très peur de la transmission de la grippe aviaire vers l'homme et de cause. Il y a eu 200 infections avec une mortalité, taux de mortalité de 50%, donc c'est pas mal. Donc on a intérêt à se poser la question comment l'arrêter. Donc vous voyez ici quelques pandémies qui ont lieu au dernier siècle. Donc le virus de la grippe, que vous voyez ici une représentation schématique simple, est caractérisé par une coque de protéines à l'extérieur. Et cette coque de protéines, en fait, contient deux protéines clés qui sont la neuraminidase et l'hémagglutinine. Donc, ce sont deux protéines qui sont à la surface de ce virus et qui jouent un rôle extrêmement important dans l'infection. Ce sont des rôles un peu antagonistes, pas toujours leur importance, toujours n'a toujours pas été totalement clarifié, mais les deux protéines vont reconnaître des sucres à la surface de leur cible. Donc, ils vont se fixer sur des glycoprotéines qui sont à la surface, fixées sur des protéines à la surface des cellules. Et cette première étape, cette reconnaissance, sert de point d'entrée pour l'absorption du virus, et après on a infection, et à la fin du cycle de propagation, le virus va sortir et détruire la cellule en question. Donc cette interaction entre ces protéines et la surface de la cellule est crucial pour la survie du virus. Et ces deux protéines possèdent beaucoup de variations de séquences, hein, parce que pendant la réplication de ces virus, on crée beaucoup de mutations. Et donc, la majorité de ces mutations sont délétères, mais il y en a parfois qui continuent à se propager. Et c'est ces variations qui donnent lieu au nom des souches. Hein, c'est ça qui donne. C'est pour ça qu'on appelle ces souches H5N1. Hein, vous avez sans doute entendu parler de ces variations. Eh bien, ça veut dire que c'est le variant hémagglutinine 5 et neuraminidase numéro 1. Donc cette variation de séquence, hein, c'est ça qui provoque le drift, je ne sais pas comment dire ça en français, antigénique du virus. Alors, comment... Donc depuis quelques années, dans les années 90, il y a un groupe australien qui s'est intéressé à ce problème de ce virus et qui s'est posé la question, est-ce qu'on peut développer des médicaments efficaces contre le virus de la grippe? Alors ils ont commencé à regarder la structure de ces molécules, on va le voir tout de suite. Ils ont essayé d'intéresser l'industrie pharmaceutique pour leurs travaux. Eh bien, il n'y avait aucune industrie pharmaceutique qui a réagi. Donc, ces gens, ils ont travaillé un peu, c'était un travail un peu marginalisé. C'était autour de Peter Coleman en Australie. Et bon, petit à petit, ils ont quand même eu une petite entreprise qui a commencé à fabriquer ces molécules. Et c'est le fameux Tamiflu, hein, que maintenant, on essaye de se les arracher. Et donc, c'est peut-être la molécule qui va nous sauver ou moins retardé si jamais il y a une transmission de grippe aviaire vers l'homme. Donc, le Tamiflu ou le Relenza, qui est une molécule très proche du Tamiflu, comment ça marche? Donc, on a première étape de l'infection, on a une reconnaissance de l'hémagglutinine, de acide sialique, qui est un sucre qui se trouve à la position terminale d'un glycopeptide. Et donc, cette étape est impliquée dans la reconnaissance du virus, la reconnaissance des cellules par le virus. Alors, une autre étape est assurée par la neuraminidase. La neuraminidase, qui est une enzyme, c'est une carbohydrase et qui, elle, est reliée lors du relâchement, lorsque le virus va s'échapper des cellules. Elle doit couper à ce moment-là ces mêmes sucres, l'acide sialique, et cette fonction est assurée par cette enzyme. Donc, il y a 9 sous-types de neuraminidase et ces sous-types N1 et N2 sont reliés à l'épidémiologie chez l'homme. Donc, j'ai dit que cette protéine est impliquée, c'est une carbohydrase, ça veut dire qu'elle va hydrolyser des sucres. Vous voyez ici le mécanisme réactionnel, que je ne vais évidemment pas commenter en détail ici, mais c'est l'analyse de la structure tridimensionnelle de cette protéine en présence de ces sucres a permis de trouver des inhibiteurs. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez ici une vue détaillée du site actif avec l'acide sialique à l'intérieur de ce site actif. Et en bleu, vous voyez ici des endroits où on pourrait apporter des modifications chimiques au substrat pour essayer d'améliorer l'interaction avec un médicament potentiel, l'interaction avec l'enzyme. Donc, une des conclusions de ce type de travail était que si on mettait un groupement positif à la position C4, qui est la position ici, sans doute on pourrait améliorer l'interaction, ça deviendrait un pseudo-substrat avec l'enzyme. Et ça, c'est ce qui a été fait. Donc, ces chercheurs on créait des molécules dérivées. Donc, c'est ce que vous voyez ici. De nouveau, on ne va pas regarder ça en détail, mais la molécule qui contenait un groupement imido ici à la position 4, effectivement, s'avérait être un excellent inhibiteur de la neuraminidase. Donc, ça a été, le fameux Tamiflu a été développé à partir de ce type de molécule. Et donc ici, vous voyez l'interaction entre le Relenza, le Tamiflu et l'enzyme, et le groupement positif se trouve à cet endroit ici représenté en bleu. Et effectivement, il est complémentaire avec la surface négative du site actif qui se trouve autour. Donc là, vous voyez qu'en regardant avec une démarche qui est relativement simple, dans sa conception, pas simple pour le faire, donc en regardant comment une molécule interagit avec un site actif d'une enzyme, on peut créer quelque chose qui a un pouvoir inhibiteur extrêmement efficace. Alors, se pose la question de la résistance. Donc, on a développé... c'est une molécule intéressante parce qu'elle va toucher au site actif de l'enzyme. Ça veut dire que même s'il y a des mutations dans la protéine, et il y en a beaucoup dans le développement de la grippe, ces mutations, sans doute, n'auront pas lieu dans le site actif. Pourquoi il n'y aura pas de mutation dans le site actif? Parce que s'il y a des mutations dans le site actif, sans doute, le virus va créer des enzymes qui ne sont pas efficaces. Donc, ce sont des mutations qui sont créées, parce que ces mutations sont aléatoires, mais à ce moment-là, ces virus ne vont pas se propager. Donc, si on arrive à trouver des molécules contre le site actif, évidemment, c'est une démarche qui est tout à fait intéressante pour créer des molécules efficaces et qui pourront contourner ce problème de mutation aléatoire. Donc, je ne vais pas, je vois que le temps court, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces chapitres de résistance, je vais avancer un peu, parce que je voulais vous parler de la protéomique structurale. Je vous ai dit que cet exemple de la grippe est un exemple classique. Maintenant, on est dans une autre ère où c'est de l'ère génomique. Et la protéomique structurale, c'est une démarche où on essaye d'explorer la structure de toutes les protéines qui sont produites dans les organismes. Alors, regarder une structure d'une protéine est une démarche expérimentale relativement lourde, ou même très lourde. Donc, on a dû procéder par le développement technologique pour la production à haut débit des protéines. La protéomique structurale, c'est un des points très importants dans cette démarche. C'est un développement technologique. Donc, ce développement technologique a comme but de déterminer la structure des protéines et donc faire un dictionnaire de toutes les structures qui sont présentes dans le monde vivant, et aussi de contribuer à la découverte de la fonction des protéines, à l'annotation fonctionnelle. Alors, pourquoi ces développements technologiques étaient nécessaires en génomique structurale? Le problème est expliqué ici. C'est à l'échelle. Donc, vous voyez ici le séquençage des organismes. Ça avance à une vitesse aujourd'hui tout à fait extraordinaire. Donc, on peut, une boîte comme Celera, par exemple, qui fait des séquençages systématiques, peut faire maintenant le génome entier d'une bactérie en un jour ou deux jours. Ce n'est plus un problème. Donc, ça veut dire qu'on a l'accès à une séquence de 2000-3000 protéines en un ou deux jours. Par contre, déterminer une structure d'une protéine, c'est une toute autre affaire. C'est extrêmement lourd parce qu'il faut cloner ces protéines, il faut les produire, il faut les purifier, etc. Donc, c'est nettement plus difficile. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de travaux technologiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des progrès au niveau du clonage, il y a eu des progrès au niveau de la cristallogénèse, il y a eu des progrès au niveau des enregistrements. Et vous voyez ici un synchrotron, les synchrotrons qui jouent un rôle très important dans l'analyse structurale de ces protéines. Donc cet ensemble d'avancées, et là typiquement c'est une démarche extrêmement intégrée, hein, où plusieurs disciplines vont se rencontrer, fait que maintenant on a quand même une accélération considérable de nombre de structures qu'on puisse regarder. Donc la génomique structurale et la découverte de médicaments. Donc on a à peu près maintenant, on connaît avec les drogues, enfin les médicaments actuels, à peu près 500 cibles, hein, qui tout organisme confondu, qui est relativement peu. C'est un sujet en soi très intéressant, je ne vais pas le développer ici. Et on a à peu près 30 000 gènes dans le génome humain, dont on connaît extrêmement peu de structures. Donc la génomique structurale va contribuer, faire une contribution très importante pour essayer de combler ce trou et donner des modèles qui puissent être exploités dans le développement des médicaments. Donc, si maintenant on accélère ce processus de détermination de structures de protéines, donc il devient de plus en plus important de savoir si une molécule est une cible, si une structure protéique est une cible potentielle, parce que pas toutes les protéines se prêtent bien pour développer des médicaments. Donc le développement de médicaments a plusieurs étapes, et je pense qu'il y a les autres orateurs vont en parler, donc je peux aller vite. Donc première étape, c'est l'identification d'une cible. Donc il faut identifier une protéine qui joue un rôle qui provoque la maladie ou qui est impliquée dans la progression d'une maladie. Et ensuite, il faut voir si cette molécule, le mot anglais est affreux et je ne connais même pas la traduction française, est druggable, c'est-à-dire est-ce qu'on peut développer un médicament contre cette protéine, oui ou non. Donc ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on a déterminer les cibles, on peut proposer un modèle structural et identifier des sites de fixation de molécules potentielles. Alors le problème est schématiquement proposé ici. Donc il y a des protéines qui se prêtent mieux que d'autres pour développer des médicaments. Alors, ici vous avez deux exemples. Donc vous avez ici une molécule qui est relativement globulaire, qui a très peu de crevasses de surface, et ici une autre qui contient des crevasses chimiquement très compliquées et de préférence remplies de résidus hydrophobes, avec ce qu'on appelle en anglais des greasy pits. Eh bien, cette molécule sera infiniment plus intéressante comme cible que celle-là, parce que pour des raisons chimiques très très simples, il sera beaucoup plus facile de trouver des petites molécules chimiques qui vont se mettre ici à l'intérieur de ces crevasses, pourvu que ces crevasses évidemment contiennent un site actif ou quelque chose qui est important pour le fonctionnement, que cette molécule-là qui est lisse et qui contient très peu de protubérance ou de crevasses. Donc on peut, à partir des structures, donc prédire, analyser toutes les crevasses à la surface des protéines et à partir de calculs physico-chimiques, plus ou moins prédire si ces crevasses dans une molécule sont, si on aura une chance pour développer des molécules contre cette protéine, enfin des molécules qui vont se fixer sur la protéine. Donc on peut prédire les poches sur les protéines, on peut même les observer si on a une information expérimentale. Par contre, ces méthodes théoriques ne sont pas toujours extrêmement fiables pour prédire au niveau thermodynamique les interactions entre la protéine et un petit agent chimique. Donc, on a introduit la résonance magnétique nucléaire et on va combiner l'RMN avec des librairies de petites molécules pour essayer de savoir si un site, est druggable, oui ou non. On voit la démarche sur cette figure. Donc, on va faire des spectres de résonance magnétique nucléaire, ce sont des spectres qu'on appelle 2D, et on va mettre la protéine, la cible potentielle, en présence d'une librairie de petites molécules, et on va mesurer si au niveau du spectre RMN, telle ou telle petite molécule va provoquer des changements. Alors, quand il y a des changements dans ce spectre, ça veut dire que la molécule se fixe, que la petite molécule se fixe et qu'on a quelque chose qui interagit. Alors, à partir de cette démarche, on peut faire des statistiques et on peut voir si, en moyenne, une protéine a tendance à interagir avec beaucoup de membres de cette librairie initiale, oui ou non. Et à partir de là, on peut classifier des protéines à très peu de chances pour être une cible intéressante ou possède des poches qui pourront être exploitées pour trouver des molécules de haute affinité. Donc on peut incorporer ce type de démarche dans la recherche globale de cibles potentielles. Donc au niveau cellulaire, il y a plusieurs démarches qui permettent de découvrir des cibles. Sans rentrer dans aucun détail, on peut utiliser la génétique, on peut utiliser la génétique inverse, on peut utiliser les données de chips à ADN, et à partir de ces observations, on peut proposer des cibles. Donc l'analyse structurale des poches et la démarche par RMN ensuite peut nous dire si ces protéines ont une chance pour qu'on développe des médicaments, oui ou non. Une dernière démarche que je voulais vous... où on va utiliser en masse les informations structurales, et il y a plusieurs entreprises pharmaceutiques qui l'emploient actuellement, c'est l'utilisation de fragments, de petits fragments pour développer des molécules à haute affinité contre des cibles. Quelle est cette démarche? Donc l'idée est la suivante. Donc on a, supposons qu'on a une certaine protéine qui a un site actif ou une crevasse donnée. Eh bien, on va co-cristalliser de façon systématique cette protéine, cette cible, avec des petites molécules organiques de très faible affinité. Donc on fait des centaines d'essais de cristallisation, on va déterminer la structure tridimensionnelle et on essaye d'identifier ainsi des petites molécules très simples qui vont se fixer sur la protéine. Et ensuite, on va utiliser cette information pour petit à petit rendre cette molécule plus complexe et plus affin. C'est-à-dire qu'on va observer comment cette molécule se fixe dans la crevasse et ensuite on va dire, ben, l'exemple ici, donc vous l'avez, la molécule A qui en soi n'est pas un bon inhibiteur parce que son affinité est trop faible et se fixe à cet endroit-là, mais par contre à côté, il y a une autre sous-crevasse qui est vide et si on rajoute un petit bout à cette molécule-là, ce qui a été fait ici, on va remplir cette autre sous-crevasse et ainsi on espère d'augmenter petit à petit et la spécificité et l'affinité, la spécificité et l'affinité pour la cible en question. Donc je vais très vite démontrer cette démarche qui a été testée, c'est un exemple, il y en a plusieurs qui sont connus maintenant, sur les phosphodiestérases, qui sont une famille de cibles qui sont extrêmement intéressante au niveau au niveau pharmaceutique. On s'est impliqué dans le turnover de la cyclique adénosine monophosphate, qui sont des messagers secondaires. et donc sont impliqués dans beaucoup de pathologies, sont agents anti-inflammatoires, anti-asthmétiques, cardiotoniques, etc. Donc pour montrer la démarche, ici, la démarche est ici clairement illustrée sur cette figure. Donc vous voyez ici le site actif de l'enzyme en question. Et on a utilisé une librairie très large de petites molécules très simples. Pourquoi très simples? Parce qu'on veut quelque chose, quand on veut développer un médicament, on veut quelque chose qui ne coûte pas cher. Donc, d'où la recherche de simplicité. Et on avait trouvé cette petite molécule qui a une très faible affinité et qui se fixe dans le site actif de l'enzyme parce que c'est une molécule hydrophobe. Elle a trouvé une poche hydrophobe à cet endroit-là. Donc ensuite, ce qu'on a fait, eh bien, on a regardé la structure de ce composé, comment il interagissait, et on s'est dit, voilà, il y a plusieurs points d'ancrage où on peut rajouter des entités chimiques. Et c'est ce qui a été fait ici. Donc on a rajouté plein de différentes modifications chimiques à ce composé, et à chaque fois, on a regardé la structure tridimensionnelle. Et qu'est-ce qu'on voit? Même si on change chimiquement la molécule, la partie initiale est toujours fixée au même endroit. Donc, et ça veut dire qu'on peut utiliser ce fragment comme base dans la recherche d'une molécule à haute affinité. Et c'est ce qui a été fait. Donc, on voit la démarche ici, une représentation de la poche du site actif. Donc là, ici, c'est la molécule simple initiale. Et petit à petit, on a essayé de la rendre plus complexe, de la rendre plus volumineuse. Et on a amélioré les interactions entre la molécule finale et la protéine. Donc on a obtenu en plusieurs cycles d'aller-retour entre analyse structurale, calcul théorique, proposition de nouvelles molécules et synthèse aussi de ces molécules, on a pu améliorer à peu près 4000 fois l'interaction entre la molécule finale et le scaffold, comme on dit, la molécule échafaudage initiale. Donc, ces démarches, ça montre un peu cette démarche fait appel, en fait, à la cristallographie à haut débit. Ça utilise des chimiothèques, ça utilise le calcul théorique, la bioinformatique, etc. C'est vraiment, bon, je suis allé un peu plus vite ici par manque de temps, mais c'est vraiment une démarche extrêmement intégrative, intéressante pour le développement de nouveaux médicaments. Donc, je pense que je vais finir ici. Donc, la conclusion, c'est donc dans l'ère génomique, les approches intégrées, c'est devenu vraiment la marque de les sciences biologiques. Hein. Je pense qu'on ne ferait vraiment plus la biologie comme on la faisait il y a 10 ans. Il y a vraiment eu un tremblement de terre depuis qu'on est rentré dans cette ère génomique. Donc, ce qu'on observe en général en biologie, c'est absolument vrai pour quelque chose de beaucoup plus appliqué qui sont les sciences pharmaceutiques, je pense. Donc, je pense qu'on observe les mêmes tendances dans ces disciplines. Et la biologie structurale joue un rôle central dans l'innovation et jouera un rôle central dans ces approches. Voilà, je vous remercie.